Nous arrivons ensuite dans l'ordre du jour aux décisions prises en vertu de l'article L20. Non, aux interpellations. Alors, sur les interpellations, nous avons regardé avec attention le règlement intérieur et il est noté qu'il faut 10 jours francs. C'est-à-dire que 10 jours francs, ça veut dire qu'on ne compte pas le jour de l'envoi et le jour du conseil municipal. Donc c'est bien un délai de 10 jours entre. Sachant qu'on avait réduit, puisqu'à l'époque, quand je siégeais dans l'opposition, c'était 12 jours francs. Donc ça faisait quasiment 15 jours. Puisque là, si vous prenez 10 jours francs, ça fait quasiment 12 jours. Donc si on considère ces éléments-là, les deux interpellations sont arrivées en retard, hors délai. Néanmoins, comme je pense que c'était une première salve d'interpellation et qu'il faut savoir parfois aussi faire vivre la démocratie, c'est dommage que M. Froli soit parti puisqu'il aurait pu l'apprécier, je vous propose de pouvoir faire les deux interpellations en vous rappelant que les interpellations au titre du règlement intérieur ne donnent pas lieu à débat. Donc il y a la lecture de l'interpellation et une réponse est apportée par la majorité. Je vous propose, Madame Gendreau, de pouvoir commencer la vôtre et ensuite on passera à celle de la liste Ilkirch et Manature. Je vous en prie, Madame Gendreau.
Merci. Alors, pour le délai, effectivement, est-ce que vous pourrez nous remettre par écrit exactement le décompte parce que j'ai pas tout... Voilà. Moi, j'ai compté sur mes petites doigts 10 jours, y compris le jour du conseil, vu qu'il a lieu à 19h. Donc je pensais être respecter la règle.
Il s'agit de quelque chose que nous avons fait revérifier par les juristes qui nous ont confirmé que c'était 10 jours en excluant le jour d'envoi et le jour du conseil. Mais
Est-ce que vous pourrez nous le noter par écrit comme
Tout à fait, si vous le souhaitez.
Je constate quand même que mon interpellation est arrivée suffisamment à temps pour adjoindre à l'ordre du jour, donc tout le monde a pu en prendre connaissance. Donc, en conformité avec l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal, nous souhaitons donc, par la présente, exercer notre droit à interpellation. En février dernier, une brochure distribuée en toutes les boîtes aux lettres présentait le bilan de mandat 2020-2021. Cette brochure de 16 pages, comme l'atteste la page 2, a été réalisée et payée par la ville. Le Code général des collectivités territoriales, en son article L21-21-27-1, et la jurisprudence, notamment une décision de la Cour d'appel administrative de Versailles en date du 27 août 2009, sont très clairs. J'ouvre les guillemets, les bilans municipaux constituent des bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, même s'il ne s'agit pas de publication périodique, un espace d'expression doit être accordé au groupe d'opposition, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, nous souhaitons connaître quelles dispositions vous comptez prendre pour rétablir ce manquement à la loi et à la jurisprudence. Pour ce qui nous concerne, nous proposons la mise à disposition d'une page dans un prochain numéro d'infographe pour chaque groupe de l'opposition. Cette solution permettrait en outre de ne pas engendrer de coûts supplémentaires pour le contribuable. Par ailleurs, dans le même registre, nous avons été informés par un courriel du 7 mars dernier que nous pourrions découvrir, dès le lendemain, la nouvelle version d'Intranet. Cet outil de communication interne permet d'accéder à toutes les informations relatives au fonctionnement et à la vie interne de la mairie et de son administration, à l'ensemble des archives, comme les délibérations du conseil municipal, mais aussi à l'ensemble des publications du service documentation presse, publications spécialisées dans de nombreux domaines. Cet intranet est à ce jour accessible à tous les agents de la ville, à tous les élus, sauf aux élus des groupes de l'opposition, et ce, depuis le début de votre mandat. Là également, il semble y avoir un problème de légalité. Nous vous demandons donc, par la présente et sans délai, de nous donner accès à cet outil. D'autre part, des associations organisent des manifestations et souhaitent inviter les élus. Nous avons constaté récemment et à plusieurs reprises que ces invitations ne nous sont pas transmises, contrairement aux élus de la majorité. Comptez-vous remédier à cette situation ou devrons-nous écrire à chaque association pour les en informer et leur demander de prendre le soin de nous inviter directement sans passer par votre intermédiaire? Nous vous remercions par avance pour vos réponses sur ces trois points. Nous vous rappelons que les élus de groupes d'opposition sont des conseillers municipaux à part entière, qu'ils ont des droits qui ne sont soumis ni à votre générosité ni à votre bon vouloir. Nous attendons donc que vous les respectiez. Je vous remercie, Monsieur le maire.
Merci, Madame Gendreau. Donc, je vais répondre sur ces points. Sur le premier point, effectivement, et le bilan constitue bien un document, au vu de la jurisprudence, qui est caractérisé comme un bulletin d'information générale. Il est vrai qu'il y a eu dans ce bulletin un manquement que je reconnais volontiers. J'ai demandé pour cela à mon directeur de cabinet, qui avait d'ailleurs adressé un courrier à M. Froli, qui nous avait interpellé sur ce sujet en date du 2 mars 2022, que ces éléments soient scrupuleusement respectés à l'avenir, qu'il n'y ait plus de manquements. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura un suivi très fin, sachant aussi que mon chef de cabinet, qui est en lien avec le service de communication, veillera à l'application stricte de ces règles. Et donc, dans les prochaines publications, il y aura bien tous les espaces réservés nécessaires, notamment dans le prochain bulletin qui sera publié pour le bilan dans la même période que celui qui avait été fait. En ce qui concerne l'intranet, nous avons vérifié avec notre service informatique et tout conseiller municipal peut y accéder selon le service informatique. Donc, M. Seiler, notre directeur de la DSI, nous a demandé de pouvoir vous transmettre la possibilité de prendre contact avec lui pour regarder sur votre tablette, pour pouvoir accéder et mettre un lien direct sur l'intranet pour plus que vous ayez de soucis. Mais en tous les cas, il n'y avait pas de problématique particulière. Ce n'était pas une volonté de notre part de ne pas vous laisser l'accès à l'intranet de la ville. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre dès demain attache à M. Seiler qui vous fera le lien directement sur l'iPad. Ce qui m'a fait aussi d'ailleurs, puisque je n'avais pas accès directement de mon iPad, je n'y arrivais pas, ça ne marchait pas toujours. Donc je n'étais pas forcément non plus en mesure de voir. C'est Jonas qui me l'a montré sur son ordinateur. Enfin, sur les invitations, toutes les invitations qui sont envoyées par les associations à destination des élus du conseil municipal sont transmises. Aujourd'hui, tout ce que nous recevons, ça passe en fait d'abord par le service courrier et pas par le cabinet du maire. En fait, les seules invitations dont nous avons connaissance et que je peux partager parfois avec certains de mes collègues qui ont la compétence, c'est quand c'est des courriers qui sont adressés pour nous inviter avec marqué Monsieur le maire ou l'élu en question. Mais en tous les cas, en général, les invitations passent par le service courrier, par l'accueil de la ville, et il n'y a pas de consigne aujourd'hui qui est donnée de jeter les invitations ou quoi que ce soit. Enfin, les choses sont mises à disposition quand les associations nous les transmettent. En tous les cas, pour ce que j'ai vécu quand j'étais dans l'opposition, c'est vrai que j'avais du mal parfois à obtenir des invitations parce que certains ne pensaient pas forcément à nous les adresser directement où elle n'arrivait pas toujours en temps et en heure. Et c'est pour ça que, quand j'étais dans l'opposition, j'ai pris le parti de faire mon grand garçon curieux qui allait chercher à travers infographes et différents supports de la ville, et même par les contacts que j'avais pu créer, de pouvoir obtenir les invitations. Mais en tous les cas, lorsque ce sont des invitations groupées pour le conseil municipal, Nous donnons toutes les invitations, tout comme pour les différentes réunions que nous mettons à l'agenda en avance. Donc il n'y a aucune aujourd'hui volonté de cacher quelques manifestations, étant entendu aussi que M. Fru et Mme R notamment ont créé un calendrier des animations de la ville qui est mis à disposition de l'ensemble des élus, qui est accessible depuis Outlook, mais que M. Seiler, de la même façon, peut vous intégrer directement, ce qui vous permettra d'avoir, en tout cas, toutes les animations faites par la ville sur toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, sont sur un calendrier spécifique qui peut être intégré à votre agenda, et donc avoir déjà au moins toutes les animations différentes de la ville. Donc voilà pour les réponses, et je vous propose maintenant de passer à l'interpellation du groupe Ilkirch, c'est ma nature.
Monsieur le maire, les récentes prises de parole des autorités de régulation et de distribution de l'énergie en France sur des pénuries probables au cours de l'hiver 2022-2023 en raison de la crise ukrainienne ont attiré notre attention. Ces prises de parole ont été accompagnées à chaque fois par un appel à modérer dès à présent notre consommation d'énergie. Nous avons entendu cet appel à une forme de patriotisme et souhaitons savoir quelles mesures la commune d'Ilkirch-Grafenstaden compte prendre pour y apporter sa contribution. Puisque vous répétez régulièrement que vous attendez des propositions de la part des groupes d'opposition, nous pensons qu'une solution simple pourrait être mise en œuvre rapidement. En effet, vous avez choisi dès le début du mandat de mettre fin à la politique d'extinction de l'éclairage public qui était en place. Vous avez annoncé le lancement d'une expérimentation de quelques mois d'extinction d'un lampadaire sur deux, dont les Ilkirchoises et les Ilkirchois n'ont jamais pu constater la mise en œuvre effective. Cette expérimentation devait donner lieu, il y a plus d'un an maintenant, à un bilan devant les membres du conseil municipal. Ce bilan n'a jamais été fait, aucun débat sur cette expérimentation n'a eu lieu. Les bienfaits de la lutte contre la pollution lumineuse pour l'environnement ne sont plus à démontrer et de plus en plus de communes prennent des mesures d'extinction nocturne. Votre décision allait totalement contre le sens de l'histoire. Elle décrédibilise totalement tous les discours que vous pouvez avoir par ailleurs sur vos préoccupations environnementales. Puisque vous faites si peu de cas des considérations environnementales, nous vous enjoignons à saisir l'occasion qui nous est donnée de faire preuve de patriotisme, mais aussi de civisme, et à rétablir l'extinction nocturne de l'éclairage lumineux.
Merci, Madame Magdeleine, pour cette interpellation. Effectivement, nous avons, dès notre arrivée aux responsabilités, pris une décision politique qui est assumée parfaitement, celle de rétablir l'éclairage public, puisque nous avions, durant notre campagne électorale, eu un certain nombre de retours, notamment de personnes qui rentraient la nuit et qui ne se sentaient pas en sécurité. Et on avait déjà eu l'occasion de parler de ce sentiment de sécurité, qui n'était certes pas toujours démontré par des faits concrets, mais aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte le sentiment d'insécurité dont peuvent faire preuve nos concitoyens. Et donc, pour contrecarrer ce sentiment d'insécurité, qui était d'ailleurs étayé par un certain nombre d'appels au 17 que nous avons pu récupérer, puisque nous avons découvert dans certains appels 17 qu'il y avait des personnes qui appelaient la police en pensant qu'il y avait, par exemple, des gens qui tournaient autour de leur voiture dans la rue, ce qui n'était pas toujours le cas, hein, puisque souvent, quand les forces de l'ordre arrivaient sur place, il n'y avait rien, mais il y avait ce sentiment d'insécurité. Donc, pour contrecarrer ce sentiment d'insécurité, nous avons pris le choix assumé de rétablir l'éclairage public avec un test sur un lampadaire sur deux entre 1h30 et 4h30 du matin, sauf sur la route du 23 novembre, la route Burkel, la rue des Vignes, la route de Lyon, la rue des Roseaux et l'avenue Mesmer. Cet élément est en place depuis le jour de la délibération, fonctionne d'ailleurs effectivement. D'ailleurs, ça nous avait valu de devoir refaire intervenir nos services techniques qui avaient été plus ambitieux que nous en éteignant un lampadaire sur deux dès le départ de l'allumage de l'éclairage public dans certains quartiers. Donc il fallait rétablir l'heure 1h30, 4h30. Et bien évidemment, nous avons en parallèle, comme on s'y était engagé, travaillé sur un plan pluriannuel d'investissement d'un montant de plus d'1 million d'euros pour le remplacement des sources lumineuses. Nous avons d'ailleurs 200 000 euros qui sont inscrits au budget cette année. Ce remplacement des sources est un élément important, puisque s'il avait été fait dès l'époque où d'ailleurs vous étiez aux responsabilités, nous aurions pu envisager une économie de 50% d'énergie sur l'éclairage public Ilkirchois, sans même devoir intervenir sur des extinctions ou quoi que ce soit. Donc il y aurait déjà eu un gain assez important. Je rappelle qu'aujourd'hui, seuls 30% du parc a été remplacé en LED. Donc il y a un retard qui est quand même assez considérable sur l'éclairage public. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aime beaucoup travailler. Et je peux vous dire qu'en ayant vu l'état d'un certain nombre d'armoires électriques, on voit qu'il y a eu un sous-investissement sur l'éclairage public. Donc ce que nous souhaitons, c'est contrecarrer ce sous-investissement en investissement pour pouvoir remplacer 70% sur le mandat des sources dans le parc et surtout d'avoir un éclairage intelligent, donc plus avec des capteurs de présence, puisque c'est une technologie qui aujourd'hui est dépassée. Les capteurs de présence, c'était bien avant, au tout départ, parce que ça permettait d'avoir un semblant d'économie et de gradation. Mais aujourd'hui, nous avons des systèmes beaucoup plus innovants, avec une baisse de l'intensité lumineuse. C'est d'ailleurs un système que nous avons installé sur la route de Lyon, entre l'arrêt colonne et les Trois Fleurs. Et donc, toutes les nuits, vous avez une baisse de 60% de l'intensité LED sur ces candélabres. Le test s'est avéré positif et c'est pour cela que je propose de venir en commission développement durable et de faire un bilan au prochain conseil municipal du mois de juin pour vous présenter un état détaillé de la mesure, pour vous proposer qu'en attendant de passer le parc en LED, nous puissions envisager l'extinction d'un lampadaire sur deux de 23h à 5h du matin, puisque c'est une mesure aussi qui est efficace et efficiente, qui a fait ses preuves et sur lequel nous avons eu beaucoup de retours positifs, ce qui permet d'avoir justement un certain nombre de gains énergétiques, et mais en même temps d'assurer un sentiment de sécurité. Mais en tous les cas, nous aurons l'occasion au Conseil municipal de juin d'en débattre, de pouvoir vous présenter aussi en commission les différentes technologies qui sont retenues en ce moment même par nos services, puisque le service, sous la direction de M. Koeffling notamment, a fait une étude complète, un diagnostic complet de l'éclairage public. Nous avons testé l'entièreté des mâts pour voir quel mât était aujourd'hui en état de pouvoir demeurer et donc seulement des changements de source. Et sur d'autres mâts, nous avons la nécessité de changer aussi le mât pour la sécurité. Et donc, ça permettra de refaire une remise à neuf du parc, d'avoir ce pilotage à distance pour avoir la gradation. L'idée, c'est presque de pouvoir, dans certains quartiers, pouvoir baisser de 80% l'intensité lumineuse la nuit et d'avoir une lumière qui soit homogène et d'aller beaucoup plus loin dans le pilotage pour viser à la fin du mandat environ 60% d'économie sur le parc de l'éclairage public. Mais je viendrai en commission et au prochain conseil municipal vous présenter avec le support du service ces éléments et ce diagnostic et ce plan pluriannuel d'investissement qui est ambitieux pour faire un éclairage public de qualité qui allie à la fois la sécurité et l'enjeu environnemental, et c'était bien ce que nous avions marqué dans notre programme électoral, c'était d'arriver à lier les deux. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir le faire grâce au travail aussi qui a été mené par les services techniques et qui était un travail ambitieux parce qu'on voit souvent l'ampoule, mais derrière l'ampoule, il y a le candélabre avec des éléments de sécurité, il y a les armoires techniques, il y a les horloges, il y a les répartiteurs, et je peux vous dire que ça nécessite quand même une ingénierie importante et il ne suffit pas juste de faire comme à la maison, de dévisser son ampoule et de revisser une autre ampoule. L'éclairage public, c'est quelque chose de complexe qui nécessite une vraie maîtrise et de vraies compétences. Voilà pour ce sujet-là.